CFM, CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois.
Magazine d'actualité en CFM Villefranche avec en studio, comme annoncé, Jean-Pierre Benazet, directeur général de l'ADAPEI Aveyron, Tarn-et-Garonne, accompagné de Dominique Rénal, directeur du foyer de ville, la Borie de Graves, également des dolmens à Martial et du foyer des Taillades à Cap-de-Nac. J'ai dit l'ADAPEI, c'est juste un réflexe, l'association d'amis et parents de personnes handicapées mentales devient aujourd'hui la Fondation Optéo, c'est un nouveau tournant historique pour cette association. Jean-Pierre Benazet, je vous propose peut-être de commencer par un petit retour sur la création de l'association et comment ces transformations s'inscrivent dans l'histoire. L'ADAPEI fondée le 26 avril 1963, très précisément, ici en Aveyron en tout cas.
Vous avez tout à fait raison de situer la transformation de l'association ADAPEI Aveyron Tarn-et-Garonne en fondation. Il faut le situer dans cette histoire, dans cette longue histoire. Au départ, en 1963, des deux côtés, à la fois dans le Tarn-et-Garonne et dans l'Aveyron, des parents qui étaient sans solution pour leur enfant ou adulte ont décidé de se mobiliser pour faire évoluer la réglementation, la société, et pour trouver des solutions à leurs enfants. Et c'est comme ça que se sont créés les premiers établissements de l'ADAPEI, de l'Aveyron et du Tarn-et-Garonne. Nous avons eu ensuite une date très importante, en 2014. Le poids de la gestion est de plus en plus important pour ces associations qui, d'associations militantes, sont devenues à la fois associations militantes et gestionnaires. Le poids de la gestion étant très important, il a été décidé d'un rapprochement entre l'ADAPEI de l'Aveyron et l'ADAPEI du Tarn-et-Garonne. Et ce rapprochement, après 3 ans de travail en commun, s'est terminé par une fusion en 2014, ce qui veut dire qu'en 2014 est apparue l'association ADAPEI 1282.
Une grosse machine, hein, l'ADAPEI, il faut bien le dire. Si on avait évoqué quelques chiffres, c'est 48 structures sur ces deux départements. Et puis on peut le dire, l'Aveyron a toujours été presque mieux doté que le Tarn-et-Garonne. En tout cas, à l'occasion de la fusion en 2014, il y avait plus de salariés en Aveyron, plus de structures également. Et c'est peut-être aussi logiquement, pour des raisons de gouvernance, de mutualisation de moyens humains et techniques, que vous vous êtes rencontrés.
Alors, mieux doté peut-être pas, mais disons que la particularité, c'est que dans l'Aveyron, l'opérateur principal est l'ADAPEI. Tandis que dans le Tarn-et-Garonne, il y a plusieurs organismes gestionnaires. Et effectivement, dans le rapport ensuite entre l'ADAPEI 12 et l'ADAPEI 82, la structuration de l'ADAPEI de l'Aveyron était beaucoup plus expertisée du fait de moyens supplémentaires avec un siège social conséquent. Mais l'ADAPEI du Tarn-et-Garonne a apporté, puisque les parents ont tout le temps continué à gérer, a apporté ce côté développement familial. Ce qui veut dire qu'au final, à ce jour, il y a plus de 2300 personnes accompagnées, 48 établissements et services, 1200 professionnels, 2 départements, et ensuite on a des mandats de gestion avec d'autres associations partenaires qui représentent 400 salariés de plus.
Pour l'Aveyron, c'est 900 salariés en Aveyron et une centaine sur le secteur de Villefranche de Rouergue qui intègre le foyer La Borie de Graves qui a ouvert il y a 2 ans et demi, c'était en début d'année 2017, les AT de Martial et celui de Cap-de-Nac, une centaine de personnes pour resituer aussi un petit peu.
Oui, Villefranche, pardon.
Et près de 200 résidents accueillis ou personnes accueillies et accompagnées. L'accompagnement, c'est une notion forte aussi pour l'ADAPEI, aujourd'hui Fondation Optéo.
Pour être un peu plus précis sur le Villefranchois, il y a aussi 3 autres services qui sont représentés. Il y a le CAMPS qui est un service de diagnostic pour pour enfants entre 0 et 3 ans, qui a une antenne sur Villefranche. Il y a le CESAT, qui est un service d'accompagnement à domicile lié aux IME. Et ensuite, il y a le SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale, et le SAMSA, service d'accompagnement médico-social pour adultes, qui ont aussi des salariés sur Villefranche. Ce qui veut dire que maintenant, le secteur de Villefranche commence à avoir un réseau très important sur ce côté. Et vous l'avez dit, plus de 100 salariés. Et combien de personnes accompagnées? Je crois qu'on est à peu près...
Sur le foyer de Villefranche, on accompagne 45 personnes. Sur le foyer d'hébergement de Martiel, 45 personnes également.
Et Cap-de-Nac?
Cap-de-Nac, 44 personnes.
Bon, voilà, on est aux alentours de 150 personnes qui profitent des services.
Plus une cinquantaine sur tous les services à domicile.
Ah bah 200, le compte est bon, voilà. Impeccable. C'est une belle usine hein, quand même, hein. Faut admettre, quand on n'est pas initié, vous êtes dedans, c'est facile pour vous. Il y a beaucoup d'acronymes aussi et de sigles. J'ai l'impression qu'on est parfois un peu déconnecté déjà du handicap de manière générale. Hein. On parle beaucoup depuis 2-3 ans, c'est le mot à la mode d'inclusion. Mais il y a une vraie réalité, c'est qu'il y a une vraie distance entre les citoyens et le handicap. Comment on fait pour rapprocher le handicap et puis comment on fait pour changer aussi le regard des gens? Ça fait partie du travail, j'imagine, de la structure.
Vous citez parfaitement le problème. D'abord, le handicap, c'est une complexité. Parce qu'on parle sous un terme générique handicap, mais ça relève des situations complètement différentes. Vous avez des déficients intellectuels, vous avez des polyhandicapés, vous avez des personnes qui sont en situation de trouble autistique et vous avez différentes composantes de ce handicap avec des degrés d'autonomie plus ou moins importants. Et effectivement, la notion d'inclusion, il y a eu un célèbre rapport de l'ONU qui a un peu tensé la France en disant qu'on n'était pas assez dans des démarches d'inclusion. Qu'est-ce que ça veut dire l'inclusion? Ça commence à l'école en disant, eh bien, l'école, l'éducation nationale doit devoir s'occuper de tous ces enfants, qu'ils soient handicapés ou non. Et on voit des progrès énormes qui sont faits à ce niveau, notamment dans l'Aveyron, aussi dans le Tarn-et-Garonne. Et ensuite, à la notion d'inclusion, ça renvoie aux situations d'emploi professionnel. Avant, des personnes en situation de travailleurs handicapés travaillaient à l'ESAT, sans grande chance de réintégrer le milieu ordinaire. Maintenant, on nous oblige à faire des ponts avec les entreprises par différents modèles, à travers des stages, à travers des mises à disposition, et on s'aperçoit que ça fait des résultats formidables. Et en parallèle, dans les ESAT, il y a des montées en compétences des personnes, à travers le RSFP notamment, qui est, si vous voulez, l'équivalent de la VAE, et qui permet des validations d'acquis de compétences qui, après, sont transférables et utilisables dans des entreprises classiques.
D'ailleurs, on peut faire le lien avec la marque qui avait été déposée, qui s'appelait déjà Opteo, il y a 2 ans, je crois savoir, pour reconnaître le savoir-faire des pratiques dans les différents établissements et services d'aide aux personnes.
Tout d'abord, peut-être en 2 mots, je peux vous dire le pourquoi de la transformation de la fondation. On verra après le nom. Comme vous l'avez bien souligné, ce qui est maintenant la fondation Opteo, c'est un budget de 75 millions d'euros, 1200 salariés, nombre de personnes handicapées accompagnées. Mais ça veut dire, aujourd'hui, ça nécessite une expertise très importante, comme dans une entreprise. Mais à la différence, notre entreprise, on s'occupe de l'accompagnement de personnes humaines. Donc tout cela nécessite des compétences expertes de plus en plus importantes. Donc il nous a semblé que le système associatif ne pouvait pas à la fois allier ses compétences de gestion, mais aussi ce besoin de défense de la cause du handicap et des personnes handicapées, qui là sont plus de l'essence des parents et du mouvement et des personnes handicapées elles-mêmes. Donc on a trouvé judicieux de trouver un système, on a cherché longtemps. Et d'autres avaient fait ce pas avant nous. On a dit la fondation reconnue d'utilité publique, mais à but non lucratif, elle est la coquille qui nous permet de faire ça. Donc la fondation va s'occuper de toute la gestion et la nouvelle association qu'on appellera Association des Amis de la Fondation ADAPI 1282 s'occupera du mouvement parental, s'occupera de la défense des droits des personnes handicapées. Mais bien entendu, ces deux associations sont frères et sœurs. Ce qui veut dire qu'il y a tout un tas de ponts qui sont créés entre les deux. Des ponts dans le conseil d'administration de la Fondation, puisqu'il y a Il y a d'abord 5 fondateurs qui sont issus de la précédente association et 2 parents qui sont élus par la nouvelle association des amis de la fondation. Et ensuite, nous avons passé une convention entre les 2 structures. Je ne vais pas vous la détailler ici, mais cette convention rend les liens indéfectibles.
Optéo, il y a un sens à Optéo, pardon.
Alors, Optéo, comme vous l'avez dit précédemment, à un moment donné, tous les ESAT, c'est-à-dire les entreprises d'aide par le travail de la Fondation, avaient voulu communiquer sur un nom de groupe pour pouvoir répondre à des appels d'offres et être beaucoup plus solide dans la réponse.
Une forme de norme qualité en termes de savoir-faire, de professionnalisme.
Tout à fait, avec derrière une charte qualité avec des normes. Et quand il s'agit de trouver un nom à la Fondation, si vous voulez, on partait dans tous les sens, et puis finalement, on a choisi le nom d'Optéo. Alors, Optéo, qu'est-ce que ça signifie ? Chacun est libre de trouver la solution.
Ah ben, c'est concept, hein.
Mais on vous la dira peut-être le jour du lancement de la fondation.
Le lancement, c'est pour là, et le coup d'envoi, vous avez choisi de faire parler de la fondation Optéo, donc anciennement ADAPI Aveyron Tarn-et-Garonne, dès ce vendredi. Alors avec des événements et un point d'orgue le samedi 26 octobre à Sébazac notamment, mais dès ce vendredi, une conférence qui se tiendra à Saint-Étienne de Tulmont. Un mot peut-être sur le programme.
Alors on a décidé de le faire sur un peu plus de 15 jours, donc ça démarrera dans le Tarn-et-Garonne, avec une conférence le vendredi 18. Et cette conférence, on la fera chez des partenaires, chez une association partenaire. Le samedi 19, il y a une marche pour tous, avec des discours, repas et des stands sur le territoire 82. Ensuite, nous avons une série de journées portes ouvertes, mais Monsieur Reynal détaillera plus la journée porte ouverte qu'il y aura dans le département du 12. Le vendredi 25, il y aura la présentation de l'association des amis de la Fondation, 1282, et cette présentation se fera à l'IME de Saint-Même, où il y aura différents temps, avec l'intervention de la Maison départementale des personnes handicapées, le Conseil départemental et l'UDAF.
Et on est au siège social, hein,
là, on est à côté du siège social, effectivement. Et alors, le samedi 26, ça sera un peu la journée phare, de 10h à midi. Alors la journée phare se situera à Sébazac. Pourquoi ? Parce que toutes les salles étaient prises sur Rodez. Donc, et comme à Sébazac, nous avons aussi des établissements, on a choisi ce lieu. Donc, le matin, et on remercie d'ailleurs la mairie de Sébazac d'avoir mis à disposition toutes ces infrastructures. De 10h à 12h, conférence autour de handicap et entreprise, un enjeu sociétal d'inclusion. Avec la présence de la directe, la présence de la GFIP, la présence d'entreprises qui jouent l'inclusion, notamment l'ISI qui sera présente avec des témoignages, et de nombreux témoignages d'entreprises et de personnes handicapées. De 14 à 18h, nous aurons les salons des ESAT qui se dérouleront à la Doline, à Sébazac. Présentation des métiers et valorisation des compétences en lien avec l'entreprise, et vous pourrez assister à plusieurs démonstrations.
Handicap et entreprise, j'ai l'impression que dans le discours, c'est de plus en plus présent. Ça fait partie aussi, j'imagine, des enjeux de la Fondation de rapprocher les personnes en situation de handicap des entreprises.
Oui, depuis 1987, les entreprises, notamment de plus de 20 salariés, sont soumises à obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Et la secrétaire d'État, Madame Cluzel, a voulu donner un élan fort à l'inclusion des travailleurs handicapés des ESAT en demandant qu'il y ait des objectifs d'insertion professionnelle beaucoup plus élevés qu'auparavant. Mmh. Et dans ce cadre, nous avons à disposition tout un tas de dispositifs que nous mettons en lien avec l'entreprise, avec notamment un nouveau dispositif qu'on appelle l'emploi accompagné, qui permettra de détacher des personnes dans l'entreprise. Et si à un moment donné, il y a une difficulté, on pourra intervenir sur les formations de tuteurs et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'au-delà de l'accompagnement des personnes handicapées, il y aura l'accompagnement des entreprises.
Les entreprises jouent le jeu, c'est la vraie question, de savoir si oui, il y a, c'est régi peut-être par des textes, des lois, des interventions de ministres, mais est-ce que les entreprises jouent le jeu et...
Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la situation évolue beaucoup. Et actuellement, nous, dans l'Aveyron, on a la chance d'avoir, parce qu'on procède par petits pas, d'avoir des entreprises avec qui on peut communiquer et qui maintenant jouent le jeu à travers des détachements, à travers des mises à disposition et à travers des emplois. Et nous avons des objectifs d'emploi en milieu ordinaire, c'est-à-dire avec des contrats sécurisés type CDI, de 3-4 personnes par an. Quand l'entreprise, on part de ses besoins, qu'on est capable d'avoir des personnes formées avec des compétences transférables, elle joue le jeu si aussi on permet l'accompagnement. Et si la situation ne peut pas fonctionner, il faut qu'on ait la capacité à reprendre la personne parce qu'elle n'était pas à un moment donné mûre. Mais le tissu d'entreprise avec lequel on travaille joue parfaitement le jeu. Le but, c'est d'augmenter ce nombre d'entreprises et c'est pour ça que nous faisons cette journée de lancement.
Je vous ai coupé dans le programme, il nous restait, je crois, le dimanche 27 octobre, non ?
Le marché, le 26. On en a parlé ? Non, il me reste le 26.
Ah bon, le 26, et on a le 27 également.
Alors le 26, simplement, je voulais insister que le soir, nous avons un repas qui est fait. Alors c'est un repas qui nous avons la chance d'avoir comme administrateur à Opteo, Michel Brasse. Et c'est lui qui fera avec... les travailleurs handicapés de l'ESAT spécialisé cuisine, c'est lui qui va faire le repas pour les 600 personnes accueillies. Et ce repas, il le fait bien entendu à titre gracieux, donc c'est vraiment, ça va être un excellent repas parce que préparer un repas avec Michel Brasse, de suite, on va dans la création, dans l'éveil au sens. Déjà, on salive, mais ça va être un moment formidable. Et au cours de ce repas, il y aura aussi la on va remercier tous les anciens administrateurs qui ont fait la DAPI. Nous aurons aussi une tombola qui va permettre de gagner de nombreux lots, dont un repas de Michel Brasse.
Ah bah pour le tombola, il faut composer le 05 65 45 93 20, peut-être. Le numéro de téléphone du foyer de vie La Bourrie de Graves, c'est là où on peut prendre un ticket de tombola. C'est une petite transition pour donner la parole à Dominique Reynal, qui était chef de service jusqu'au mois de juillet, et devenu donc directeur de ces trois structures qui étaient gérées par Marie-Josée Doucet, voilà, qui aujourd'hui a trouvé d'autres fonctions dans la fondation Opteo. C'est une réorganisation. Organisation, j'imagine. Un mot peut-être sur le foyer de vie, La Bourrie de Graves, parce qu'on a une vraie proximité aussi. Alors, et puis, c'est une structure récente dans le parcours. Hein. Peut-être la dernière de...
À ce jour, oui.
À ce jour. Mmh.
Tout à fait. Dans le foyer de La Bourrie de Graves, donc, qui est ouvert depuis janvier 2017. Et donc, nous accompagnons au quotidien 45 résidents, donc adultes. L'accompagnement est construit sur trois grands domaines, qui est la participation sociale, donc tout ce qui est en lien avec les autres, que ce soit pour les activités, les animations, les différents partenariats. L'activité, après, la seconde activité, la grosse activité, c'est l'autonomie, la vie quotidienne, et le suivi de la santé, la promotion de la santé. Donc, dans ces trois grands domaines, nous accompagnons ces 45 personnes au quotidien. Donc, et pour ça, dès notre arrivée sur Villefranche, on s'est attelé à créer et à construire des partenariats divers et variés pour faciliter et étayer nos accompagnements et les renforcer. Et donc, on est vraiment satisfait parce qu'on a trouvé un très bon accueil de la part des partenaires, que ce soit au niveau de l'éducation, avec le lycée Beauregard, par exemple, avec au niveau de la culture, avec les espaces culturels villefranchois, avec le tennis club, avec le club de rugby à 13, avec CFM Radio.
Ah, incontournable, CFM Radio.
Incontournable, voilà. Mais vous avez permis et vous avez contribué à nous faire connaître. Donc, ça a vraiment contribué à lancer tous ces partenariats. Après, à titre individuel, il y a de nombreux résidents qui vont dans des clubs de peinture, qui vont faire du bénévolat au Secours Populaire, qui participent à la chorale, amalgame. Il y a vraiment un maillage et un tissage qui s'est fait assez naturellement et qui est vraiment satisfaisant et qui nous a permis de s'implanter assez rapidement.
Ça me fait penser à monsieur Bernard Giraud, qui est résident, que j'ai croisé au Villefranche-Montrocq, dernière édition. Cette autonomie-là aussi, ils sont en pleine forme, vos résidents, et ils vont bien, et ils sont heureux. L'épanouissement et le développement personnel, ça fait partie aussi de votre travail. travail au quotidien. Il y a l'aspect gestion et bien-être aussi de vos résidents.
Après, il y a la volonté aussi d'aller dans le sens, comme disait M. Benazé, la législation évolue, les mentalités évoluent, et on parlait d'inclusion tout à l'heure. C'est la volonté de permettre aux gens de décider, d'être acteurs, d'être sujets et de faire par eux-mêmes. Donc on a vraiment, je pense, la volonté de les amener à se projeter seuls, en groupe, de façon différente, et de les accompagner dans toutes ces démarches, sans préjugés, ni sans avoir... trop peur. Souvent, c'est assez impressionnant. On parle d'inclusion, on se dit, ils vont se retrouver tout seuls, ils vont être... Et on s'aperçoit qu'en étant accompagné, en étant informé, ça fonctionne, quoi. Ils arrivent à se projeter et à faire par eux-mêmes plein de choses à l'extérieur.
Monsieur Benazet.
Je veux revenir sur quelque chose de très important qui se passe sur Villefranche-de-Rouergue. Quand on parle d'inclusion, l'inclusion, ça ne peut pas être que des personnes handicapées qu'on intègre dans le tissu local. L'inclusion, c'est un phénomène naturel qui doit aller dans les deux sens. Et ce qui se passe à Villefranche-de-Rouergue, et je crois quand même que votre radio est aussi un excellent vecteur par rapport à ça et a complètement joué le jeu.
Non, je t'ai plus.
Non, mais c'est une vraie symbiose qui se passe, je vois, dans les différents clubs. Et maintenant, toutes les personnes sont chez elles. À Villefranche-de-Rouergue, et à Villefranche-de-Rouergue, on les fait participer dans les clubs. Il n'y a plus, ce sont des personnes qui sont différentes, comme on est différents les uns les autres, sans que le handicap soit stigmatisé. Je pense que c'est une très très belle réussite locale.
On le rappelle, Jean-Pierre Benazet, Dominique Reynal, vous êtes aujourd'hui dans cette édition du magazine d'actualité pour nous parler de la fondation Opteo, anciennement ADAPEI Tarn-et-Garonne, Aveyron, avec des journées de lancement qui sont programmées. Un point peut-être sur ce qui va se passer mercredi prochain au foyer de vie Laborie de Grave.
Alors pour les foyers d'hébergement et les SAVS, ça va démarrer le lundi, le 21.
Le 21.
Donc 14h à 18h, journée porte ouverte. La journée sera clôturée à 18h par un petit vin d'honneur et festivité de fin de soirée, quoi, fin d'après-midi.
Tout le monde est invité, évidemment.
Dans toutes ces journées portes ouvertes, tout le monde est invité pour venir partager un moment convivial. Alors vous avez cité la journée des foyers d'hébergement, mais il y a aussi le foyer de vie.
Voilà, le 23 octobre, les portes ouvertes au foyer de vie Laborie de Grave, donc à partir de 14h jusqu'à 18h, et suivi par un vin d'honneur, où l'ensemble de l'équipe éducative et l'ensemble du personnel va présenter un petit peu son savoir-faire et comment elle a pu construire les accompagnements. Les résidents donc vont parler et témoigner de ce qu'ils vivent au foyer de vie et montrer aussi ce qu'ils savent faire, ce qu'ils font au quotidien, comment ils vivent, comment ils fonctionnent. Et ça sera le moment de partager tout ça.
Dans la présentation, nous avons oublié le dimanche.
Dimanche 27, absolument, avec la marche à Sébazac.
Et le défilé de mode organisé par un groupe de jeunes filles de l'ESAT, qui s'appelle le groupe 100% filles, et qui organise... un défilé de mode avec les personnes du comité, je crois, de l'Aveyron sur Miss France, ce qui veut dire que ça a un caractère très, très professionnel et ça mérite de venir les voir.
Dominique Reynal, Jean-Pierre Benazet, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous souhaite un beau lancement pour la fondation Opteo. Bravo pour le travail effectué. Merci.
Merci à vous.
CFM, le mag, tous les jours, 12h30, la vie du Villefranchois.